Muriel et Didier, bonjour.
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 Merci de m'accueillir dans votre café hôtel-restaurant, Café Brochier à Saint-Julien-en-Vercors, donc un café emblématique du Vercors Sud que vous avez repris en 2014. Alors avant de rentrer dans le détail de votre cuisine, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé ici.
Oh, c'est une longue histoire. On cherchait une affaire à acheter et on a rencontré quelqu'un sur le marché de la Staccade à Grenoble qui s'appelle David et qui nous a parlé du Café Brochier en disant que c'était un très joli endroit. Et on est venu un dimanche avec Didier, tous les deux. On est venu manger et on est tombé amoureux de la maison. Voilà, c'était un peu le coup de foudre.
Ça s'est passé comme ça, sur un coup de foudre, sur une intuition. On a aimé l'endroit, on a aimé la maison. Nous, les opportunités de la vie ont fait qu'on était disponibles. Tous les voyants étaient au vert, on s'est dit, allez, c'est là, c'est maintenant. On fait une dernière petite expérience dans notre vie professionnelle. On est parti sur un virage à 180 degrés par rapport à nos expériences professionnelles antérieures. Et on s'est lancé là-dedans avec beaucoup de plaisir. Voilà, on a essayé de redonner à cette maison ce qu'on voulait en faire, notre esprit, notre accueil, le contact qu'on peut avoir avec les gens et tout ça, enfin, en faisant une maison vivante. Voilà, un lieu de vie qui s'intègre dans le paysage local. Donc on a essayé de créer des moments de vie avec des concerts, des choses comme ça, pour rassembler un petit peu du monde autour de ce lieu qui est vraiment sympa.
Tu parlais d'un virage à 180 degrés, mais du coup, sans indiscrétion, vous faisiez quoi auparavant ?
Ah, j'étais dans l'événementiel en montagne. Voilà, donc rien à voir avec tout ça. Voilà, je travaillais sur une boîte sur Grenoble qui faisait l'événementiel, la communication dans les stations de sport d'hiver. La vie a fait que j'étais dégagé de ce travail. Et c'est un projet qu'on a tout le temps eu un petit peu avec Muriel, ça nous traînait un petit peu dans la tête. On s'est dit un jour on va arrêter nos boulots respectifs et puis se trouver un lieu de vie où on pourra recevoir des gens tout en essayant de continuer à en vivre un petit peu. Voilà. Et puis les choses se sont précipitées, on va dire. Les derniers enfants ont parti de la maison. Voilà, tout était un petit peu au vert. Et voilà, moi de mon côté, ma famille a toujours été dans les métiers de bouche. Hein, mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient dans la pâtisserie sur Lyon. Du côté de mon père, c'était plus charcutier. Mes parents ont tenu une brasserie sur Grenoble. J'ai toujours un petit peu baigné dans cette ambiance-là. Et voilà, et puis j'ai toujours aimé cuisiner aussi pour les potes, pour la famille. Ça a toujours été un petit peu une passion, enfin une envie de faire plaisir par ce qu'on pouvait faire sur une table. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà, et donc on s'est dit, allez, on change tout, on efface l'ardoise, on repart à zéro, on se fait un dernier trip. Voilà.
Et toi, Muriel, tu faisais quoi avant ?
Eh ben, moi, j'étais secrétaire médicale dans un cabinet médical à Grenoble pendant 25 ans.
Ah oui, donc effectivement, voilà. Très gros virage.
Ouais, très gros virage. Et on avait travaillé dans la restauration quand on était plus jeune. Après, on est redevenu un peu plus traditionnel. On a eu nos trois enfants, nos trois garçons. Et puis, c'est ce que dit Didier. Quand son boulot a commencé à aller moins bien et que le dernier de nos enfants est parti, on a vendu notre appartement à Grenoble. On l'a vendu en un mois. Et on a signé la vente de l'appartement et l'achat du Café Brochier le même jour. Donc vraiment, c'était... voilà. Oui. Et puis moi, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de ma famille parce que mes grands-parents sont arrivés d'Italie en 1923 à La Chapelle en Vercors. Les petits immigrés italiens sans le sou. Et ma mère, elle était très, très attachée. Elle est née ici, à La Chapelle. Elle était très attachée à La Chapelle. Et voilà. Donc pour moi, c'est un... C'est une jolie boucle qui se ferme, voilà, d'être revenue par là. Enfin, que ma famille soit revenue dans le Vercors, ça me plaît bien.
on savait qu'on avait envie de faire plaisir et de se faire plaisir, parce que l'un va pas sans l'autre. On est obligé de faire ce qu'on aime, sinon ça marche pas. Donc petit à petit, on a donné notre couleur, nos envies à cet endroit, oui. Voilà, en créant une cuisine un peu plus bistrot, un accueil plus décontracté, ou un lieu de rencontre, voilà. On aime bien fédérer les gens, pouvoir échanger, rassembler à certaines occasions, tout en ayant cette démarche-là de convivialité, voilà. On veut que le lieu soit vivant, voilà. On veut pas que les gens viennent forcément au resto et chacun dans leur coin. On aime bien échanger, on aime bien rencontrer les gens.
Ouais, d'ailleurs, à l'hôtel, souvent, dans le petit bar, là, y a, le soir, quand il y a plusieurs chambres, il y a des discussions, enfin, il y a des moments très conviviaux, comme ça, souvent le soir ou après le repas. Souvent, Didier, on offre un petit eau de vie à la fin du repas et on se retrouve ici, on discute et il y a vraiment plein de rencontres sympas qui nous nourrissent autant que l'inverse, quoi. Ça, on aime beaucoup ça. Les rencontres qu'on fait, il y a des belles rencontres.
Est-ce qu'il y aurait une clientèle type de l'hôtel ?
Ah, c'est assez varié quand même, hein. L'hôtel, on a quelques étrangers, enfin il y a un pourcentage, je dirais 20, 25%, 30% de clientèle étrangère, des Suisses, des Belges, des Allemands, des Hollandais, des Anglais, voilà, un petit clin d'œil aux Belges qui sont souvent assez sympathiques quand même. Mmh. On a souvent des gens sympathiques, mais les Belges quand même sont vraiment souvent très, très chaleureux, très, très ouverts. Voilà, après au niveau du restaurant, on a une clientèle locale qui peut être autant des gens du Royan, des gens du Vercors Nord, des Quatre Montagnes, qui viennent un petit peu chez nous pour changer un petit peu de cadre, voilà, passer un moment, les randonneurs, les cyclistes, les motards, voilà, c'est assez varié, on n'a pas vraiment de clientèle type, ça dépend un petit peu des saisons aussi, hein. C'est vrai que l'hiver, on n'a pas toutes les clientèles de cyclistes, de motards et tout ça, mais il y a des gens qui viennent se dépayser un petit peu chez nous et passer un moment qu'on espère agréable. Voilà. Donc l'hiver, c'est vrai qu'on travaille plus avec une clientèle locale dans un rayon de quelques kilomètres, quoi. Ça va de Valence à Grenoble, voilà, sur ce rayon-là un petit peu.
Donc une clientèle éclectique, du coup, qui vient nourrir la diversité des échanges.
Tout à fait, ouais, voilà. Et même si l'hiver, c'est un petit peu plus, qu'on va dire, confiné, les gens sont un petit peu plus cocoon dans leur attitude, c'est moins ouvert que l'été, où les gens sont plus décontractés, et discutent plus facilement en terrasse, et échangent plus facilement des choses. Voilà, l'hiver, c'est les gens viennent passer un moment en famille, avec des amis. C'est un petit peu différent quand même. La clientèle est un petit peu...
L'ambiance
est un petit peu différente entre l'été, ce qu'on peut voir sur la terrasse et dans le jardin, et l'hiver, ce qui se passe dans la salle, qui est un peu plus cocoon, un peu plus feutré.
Ouais. Oui, on en parlera tout à l'heure de cette salle, qui est un petit peu... spéciale, cette salle de ce café historique. Mais avant d'en parler, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de votre cuisine ? Est-ce que vous avez une carte ? Comment vous fonctionnez ?
Effectivement, on travaille sur une carte qu'on fait tourner au fur et à mesure des saisons, bien évidemment. Voilà, on aime bien cette appellation de bistrot gourmand. Alors on essaye de faire une cuisine de bistrot qui ne soit pas forcément très sophistiquée, mais dans laquelle on va mettre nos goûts, on va faire ce qu'on aime. C'est une priorité, moi j'aime bien faire ce que j'aime, sinon je fais mal. On va travailler des choses comme la tête de veau, qu'on n'arrive pas à enlever de la carte, même si on a essayé cet été, avec les 35 degrés, on a essayé de supprimer la tête de veau de notre carte, mais on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là, donc on l'a vite remis à la carte parce que ça le faisait pas. Donc la tête de veau, c'est quelque chose qu'on tient toute l'année, qui est vraiment un plat typique bistrot. voilà, Longchevalier, on a de la chance d'avoir une pisciculture là, qui est à 3 km de chez nous, qui fait des Longchevalier, qui sont des poissons assez, assez remarquables, qu'on travaille avec un beurre blanc. Ça, c'est des choses qu'on tient régulièrement toute l'année. Après, on travaille sur la saison un petit peu. Hein. L'été, avec les terrasses et tout ça, on va travailler des planchas, des choses comme ça, pour faire des plats un peu plus été, un peu plus lumineux. Et puis l'hiver, on va retravailler des viandes en sauce, des choses comme ça, des choucroutes, des confits, des joues de porte confits, des choses comme ça, des potimarrons, les légumes un petit peu d'hiver, voilà, les fondus de poireaux, tout ce genre de choses. Et puis les desserts, il y a des choses non plus qu'on n'arrive pas à enlever, c'est le baba au rhum, hein, que les gens apprécient chez nous, enfin, je crois. Voilà, quelques desserts comme ça, c'est 3-4 plats qui sont un petit peu emblématiques, on va dire, du café, qu'on aime bien tenir et qu'on aime bien proposer, ouais, parce que c'est des choses qu'on aime, encore une fois.
Et puis il y a ton foie gras aussi,
voilà, on fait un foie gras maison aussi, bien sûr, qu'on tient aussi toute l'année.
Ouais, okay. Apprécié.
Le foie gras toute l'année.
Oui, le foie gras toute l'année. Ce foie gras Didier est quand même assez apprécié. On nous a même demandé si on pouvait pas en faire pour à la vente à emporter, parce que voilà, très apprécié même le foie gras. Ouais.
Voilà. Puis, bon, on essaie de travailler des au maximum. Hein. On peut pas à 100% travailler des produits locaux, mais tout ce qui est viande, les poissons bien évidemment, puisque la pisciculture est à 3-4 km de chez nous. Les viandes sont souvent des viandes du plateau, hein, que nous fournit la boucherie Charvet qui est à Saint-Laurent. On essaye de travailler un petit peu en bio sur des légumes, voilà, avec la Saponaire qui est l'épicerie de Saint-Martin. Voilà, mais encore une fois, on ne peut pas travailler à 100% bio, on n'y arrive pas. On ne peut pas travailler en 100% local, hein, on va être honnête avec tout ça. Voilà, mais bien sûr, on essaye au maximum de travailler comme ça.
Et les fromages aussi.
Et les fromages, bien sûr, oui, ça, on est au cœur du fromage, on est au cœur des bleus du Vercors Sassenage. Donc là, voilà, qui eux travaillent en bio, hein, tout ce qui est fromage, même les fromages de brebis, de bouclettes et compagnie. Voilà, tout ça vient dans un rayon de 3-4 km.
Ouais, beaucoup de circuits courts, on essaye au maximum. Il y a la truite fumée aussi qu'on achète chez Murga et Cheville, les fromages. Enfin, le primeur, c'est celui qui monte à la chapelle le jeudi au marché. Enfin, on essaye de faire, de faire travailler au maximum autour de nous. Voilà, c'est quand même, on essaye quand même de respecter ça. Voilà.
Une économie de proximité.
Voilà, voilà. Ouais, oui, vraiment. En plus, c'est tellement, c'est quand même assez facile pour une grosse partie. Donc, voilà. Après, il n'y a pas toujours le, comment on appelle ça ? Il n'y a pas toujours la production. Quand on fait pas mal de couverts, il n'y a pas toujours la production qui va avec. Mais sur la pisciculture, sur la viande et sur les fromages, il n'y a pas de souci.
Et donc dans la répartition un petit peu de vos rôles pour faire tourner votre boutique, donc toi Didier tu fais la cuisine et toi tu es plutôt au service, à l'accueil, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Ouais,
ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
Et alors du coup qu'est-ce que tu préfères dans les plats de Didier ? Dessert ou plat ?
Ah ouais, ça c'est difficile comme question. Qu'est-ce que j'aime bien dans les plats de Didier ? Moi bon, l'omble chevalier au beurre blanc, je trouve que c'est vraiment délicieux. C'est le beurre blanc, c'est la sauce de l'enfance. C'est vraiment. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal de clients qui nous l'ont dit, qu'ils retrouvaient un goût de cuisine d'enfance, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Quand la casserole elle est finie, je prends un petit bout de pain parce que c'est délicieux. Voilà. Donc pour moi, c'est mon plat préféré, c'est celui-là.
Mais oui. Mm. Et un dessert à conseiller pour aller avec cet omble chevalier ?
Hésitation entre le baba et la tarte au citron.
Les deux ?
Les deux. Un baba à la tarte au citron.
Non, je ne vais pas faire ça.
Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce baba au rhum ?
Ah, il est très léger. Mm-hmm. Parce qu'il monte, quoi. Il est très, très léger. C'est, en fait, c'est ça. Après, on le fait tremper dans le sirop au dernier moment. avec une chantilly maison, forcément, hein, en siphon. Mais la particularité de ce baba, c'est que c'est vraiment une pâte très légère. Et enfin, rares sont les clients qui ont été déçus. Enfin, je sais pas si c'est arrivé, mais vraiment, c'est le quand le baba arrive sur table, on entend waouh, et on est sûr que le premier baba passé, il y a d'autres commandes de baba derrière, parce que il est c'est vraiment le joli baba. On le sert avec un petit verre de rhum à côté, et il fait envie, quoi. Ouais. Il est appétissant, voilà. Cherchez le mot, appétissant.
À tester, donc.
Ouais.
Baba au rhum.
Ouais, voilà. Ça, c'est vrai que c'est les plus beaux compliments qu'on peut me faire sur la cuisine qu'on fait ici. C'est quand des gens me disent ah, on a retrouvé le goût de notre enfance sur une tête de veau, sur un baba au rhum, sur des choses comme ça. Je dis ah bah oui, quand j'étais chez ma mère, chez ma grand-mère, j'avais ce goût-là. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Chemin de saveur sur Radio Royan, votre émission à la découverte des restaurants en Royan-Vercors. Le Café Brochier, on l'a dit en introduction de ce reportage, c'est un établissement emblématique du Vercors Sud, emblématique déjà par son nom, Raymond Brochier, c'est ça ? Raymond Brochier, c'est la personne qui a
fondé cette maison.
Oui, ouais,
c'est ça.
Est-ce que du coup, tu peux nous raconter la petite histoire de cette établissement ?
Alors, j'espère que je ne vais pas te dire de bêtises. Ce Raymond Brochier, il est nommé instituteur à Saint-Julien en 1852. Et il décide de construire sa maison en 1860. Voilà. C'est lui qui a fait les plans. Apparemment, c'était quelqu'un d'assez brillant qui finira juge de paix, je crois, dans le Diwa, qui a été lieutenant des pompiers, qui a dessiné la grille du cimetière de Saint-Julien. Enfin, c'était quelqu'un d'assez complet et qui a toujours eu envie que dans cette maison, il y ait un commerce. Donc avant, on a appelé ça un café. Donc il y avait plusieurs cafés, d'ailleurs, dans le village de Saint-Julien. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 cafés. Et donc la dernière des Brochier, elle s'appelait Georgette Brochier, elle tenait l'épicerie. Donc elle avait fermé cette jolie salle dont on va parler tout à l'heure. Et elle avait l'épicerie qui était ici dans ce bar, une épicerie. Et elle l'a tenue jusqu'en 1998. Et c'est la date de son décès, 1998. Ensuite, la maison a été fermée. Elle est restée de nombreuses années fermée, au grand regret de tous les habitants de Saint-Julien. Je crois qu'elle est restée fermée à peu près jusqu'en 2006. Il y a eu plusieurs projets qui ont avorté, et ensuite c'est un Parisien, notre prédécesseur, Christophe Monceau, qui a racheté la maison, qui a remonté un peu l'affaire. Voilà. Et puis nous, on a repris en 2014. On a continué... Le travail, c'est une maison qui a besoin qu'on l'embellisse, parce que il y avait un vieux crépi qui était tombé, donc on a refait la façade. Les volets tenaient, certains vraiment tenaient plus, il a fallu refaire les volets. Mais c'est une maison avec de belles proportions, qui est lumineuse, il y a des fenêtres partout, c'est une très jolie maison.
Donc des travaux sur l'extérieur et des travaux de rénovation des œuvres d'art.
Voilà.
À l'intérieur, donc ouais. Dans cette fameuse salle.
C'est ça.
Alors, du coup, ces peintures, parlons-en.
Alors, les peintures, alors là, c'est un monsieur Guigon, Louis Guigon, qui était venu soigner son asthme à Villard-de-Lans. Il était marseillais et il était peintre décorateur. Alors, je ne sais pas très bien comment, mais en tout cas, il est arrivé ici, il a fait les peintures de ce café. Il a fait quelques peintures à l'Hôtel du Parc à Villard-de-Lans. Et je crois qu'il y a une ou deux peintures à Saint-Jean aussi, à la mairie peut-être, de ce fameux monsieur Guigon. Et les peintures, elles sont toujours là dans cette salle. Donc elles sont signées. Il y en a elles sont sous forme de médaillon. Et il y a un des médaillons qui est signé Louis Guigon et qui date de 1912. Voilà. Donc qu'on a fait restaurer il y a 2 ans. Parce que ça commençait un petit peu assez frité. C'est peint sur les murs directement sur le plâtre. Donc il a fallu faire restaurer ça par un artiste peintre qui a bien voulu venir ici pendant 5 semaines, 6 même, presque 6 semaines. On a fermé en novembre 2014.
Et ce sont des scènes, des paysages du Vercors.
Paysages du Vercors.
Qui sont représentés.
Voilà. Donc il y a, y a plusieurs médaillons. Certains représentent les gorges de la Bourne et les autres représentent les Grands Goulets. Dont une partie qui est fermée maintenant et qui sont en peinture chez nous.
Voilà. Reste deux peintures énigmatiques au fond de la pièce.
Des peintures mystérieuses, deux jolies peintures. Et là, tout le monde nous pose la question. Et je crois que le Cours patrimoine a fait des recherches et n'a pas trouvé réponse. Avec des palmiers, ça fait très soit Afrique du Nord, soit les Indes, on ne sait pas très bien. C'est assez mystérieux. Deux jolies peintures d'ailleurs qui sont.
Qui invitent au voyage.
Voilà. Donc. Sous fond de Vercors, c'est assez atypique. Ouais.
Donc dans cette salle, vous programmez une fois par mois, c'est le premier vendredi du mois,
c'est ça.
Un concert ou pas forcément un concert, non, pas nécessairement un concert, un spectacle.
C'est beaucoup concert et parfois c'est du théâtre comme cet hiver avec les Popettes, il y a eu du théâtre chanté. Qu'est-ce qu'on a fait? De l'impro vocale, il y a eu aussi. Il y a eu un petit spectacle pour enfants, un mercredi matin. Et puis ça, c'était exceptionnel, ça n'avait rien à voir avec les vendredis du café. Mais sinon, le premier vendredi de chaque mois, on fait un petit concert à l'intérieur, l'été à l'extérieur, quand le temps le permet. Ici, c'est toujours un peu aléatoire, le temps. Jazz, rock, blues... chansons françaises, musique irlandaise, on a eu aussi. Voilà. Et artistes souvent, locaux, des artistes locaux qui viennent et qui acceptent de passer avec des petits cachets parce qu'on a, on a une petite salle, donc on ne peut pas non plus faire des. On n'a pas une capacité énorme, quoi. Donc c'est souvent des petits concerts intimistes, quoi, avec 40 personnes, 30-40 personnes, 50 les vendredis où il y a du monde, quoi. Et c'est très chaleureux, très sympa.
Et donc des concerts pour lesquels vous faites une proposition un petit peu particulière au niveau de la cuisine?
Ah, ce jour-là, Didier est presque en vacances.
Ah oui?
C'est ça.
On essaye de rendre ces moments accessibles à tout le monde. Donc nous, on propose une assiette complète selon l'humeur du moment. À 12 euros, on majore pas les prix du bar, on joue le jeu à fond pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir chez nous.
Et c'est entrée libre.
Voilà, et c'est entrée libre aussi, bien sûr. Si les gens veulent juste venir jeter un coup d'œil, ils sont les bienvenus.
Ah oui, cependant pour l'assiette, il est conseillé de réserver.
L'assiette, il est conseillé de réserver. Encore comme le disait Muriel, la salle est petite. Donc on a, quand c'est l'été, ça va beaucoup mieux parce que la cour est un petit peu plus grande. Donc on peut plus facilement improviser. Mais l'hiver, dans la salle, c'est vrai qu'on est assez contraint. Oui. Donc il est mieux qu'on sache un petit peu à l'avance les gens qui veulent venir. Oui.
Et donc là, est-ce que vous avez déjà ficelé votre programmation à l'avance pour le mois de novembre?
Le mois de novembre, on est fermé, c'est notre fermeture annuelle. En décembre, il y a... alors, ils ont changé de nom, mais c'est un groupe vocal, d'improvisation vocale, qui va venir. Et janvier, normalement, on est fermé, et puis souvent, après les fêtes, c'est pas la peine d'essayer de faire... parce que le premier vendredi du mois, c'est tout de suite après les fêtes de fin d'année. Donc, en général, on ne fait pas de concert. Et en février, on essaye, on n'a pas la réponse encore, d'avoir quelqu'un qui fait du slam. On aimerait beaucoup ça. Voilà, on a pris contact. Là, on attend la réponse pour février.
D'accord. Voilà. Donc, à suivre.
Ouais, à suivre. Ouais. Et ça, je pense que ça va être pas mal. Mmh. Ouais.
Donc le Café Brochier est un lieu de programmation avec ses concerts, mais aussi un lieu d'exposition. Et on a là sous les yeux deux artistes locaux qui sont exposés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux énergumènes?
Alors c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir des artistes sur Saint-Julien qui nous font l'honneur de vouloir bien présenter leurs œuvres chez nous. Donc voilà, il y a Jérôme Ossibal, hein, qui est sculpteur et aussi peintre, et Frédéric Leclerc qui est peintre aussi. Voilà, donc ces deux artistes nous font confiance pour exposer leurs œuvres chez nous. Pour nous, c'est très, très agréable, ça a fait une vitrine pour leurs œuvres, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, quoi, d'avoir cette confiance de ces gens pour venir chez nous. Voilà, et on en est très, très content et très fier. Ouais.
C'est assez rare quand même dans un petit village comme ça d'avoir quand même deux artistes avec qui ont du talent. Et ça a été assez naturel quand ils nous l'ont proposé d'ouvrir, de laisser nos murs. Et puis c'est aussi très apprécié, même si bon, on ne peut pas dire qu'il y ait des ventes. Voilà, mais c'est plus... Enfin, c'est très agréable pour les clients d'avoir des œuvres sous les yeux. Les sculptures, elles attirent le regard, et voilà. Et puis il y a tous les commentaires, et donc là les œuvres de Frédéric Leclerc sont dans le couloir, et les gens s'arrêtent volontiers. Donc et puis c'est très agréable quand même d'avoir sous les yeux tout le temps des belles choses. Voilà, c'est le plaisir d'avoir des belles choses.
Ma famille connaît le café Brochier depuis très longtemps, c'est-à-dire dans les années 35, quelque chose comme ça, avant la guerre, quoi. Ils connaissaient aussi Monsieur Brochier, le mari qu'on a connu de Madame Brochier, et le père de Jojo Brochier. Mais ensuite, ce que je connais moi, c'est après la guerre, mes grands-parents prenaient une chambre tout le mois d'août, ici, au café Brochier. Et ils y restaient pour l'été, quoi. Et ils prenaient aussi leur repas. Ils prenaient aussi leur repas dans la grande salle de restaurant. Et ça a duré jusqu'aux années, je ne sais pas exactement, peut-être 60, quelque chose comme ça. Et ensuite, ils étaient chez d'autres habitants, parce que je crois que les chambres ne se... Peut-être qu'il n'y avait plus de chambres à ce moment-là qui étaient pour recevoir, quoi. Sinon...
Et vous avez des souvenirs, petite fille, du café Brochier?
Oui, bah oui. J'ai des souvenirs. Je peux vous dire comme souvenir, c'est que ma grand-mère craignait les orages. Et elle craignait les orages, et un jour, il y avait un gros orage. Et mon grand-père et moi, on était sortis, on était par là, je ne sais pas où. Et elle était restée dans la chambre. Et quand on est revenu, on ne la trouvait plus. Elle s'était... enfermée avec le chien dans un grand placard, parce qu'elle était morte de peur. Et alors, ils étaient tous les deux, il y avait un vrai placard, ils étaient tous les deux comme ça, ils avaient le chien qui tremblait et elle qui tremblait. C'est vrai que les orages sont forts par ici, ça c'est un souvenir. Et sinon, on allait se promener, ramasser des framboises, là-bas, je ne sais pas, vers la porte du diable ou qu'est-ce qu'il y a, le Moulin Marquis, voilà, c'est ça. Sinon, des promenades, des jolies promenades.
Et vous avez en mémoire un plat, quelque chose qu'on mangeait ici au Café Brochier?
Non. Non. Ouais. Non, je crois que j'étais trop jeune. J'aimais bien manger, mais je ne me rappelle pas. Non.
D'accord. Et votre prénom, c'est comment?
Lucille.
Lucille. Merci beaucoup, Lucille, pour ce petit témoignage.
On reprend un petit peu toutes les mises en place. Donc là, on est en train de refaire quelques desserts. Clément est en train de nous faire un caramel pour la nougatine qui va nous servir pour les nougats glacés. Voilà, après la deuxième étape, ça va être de monter des blancs et monter de la crème et de mélanger tout ça pour arriver à faire un nougat glacé. Là, on a commencé à snacker des magrets de canard. On a là aussi les joues de porc qu'on est en train de faire confire. Voilà, qui confisent tranquillement dans de la graisse de canard. Voilà, les joues de porc. Au four, on a les foie gras qui sont en train de finir de cuire. Ça nous arrangerait bien qu'ils finissent de cuire. Comme ça, ça nous libérait le four. On a qu'un four, voilà. Et le foie gras, bon, on le fait cuire tout doucement à 70 degrés. Très tranquillement au bain-marie. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais comme ça, on a une cuisson qui est assez homogène et qui est sur du mi-cuit plutôt cuit et qui est une belle cuisson. Donc, c'est une cuisson que j'aime bien faire. Voilà, on est en train de travailler l'appareil à baba. On va faire les baba au rhum. Voilà. Donc on va peut-être partir sur le baba au rhum. Nous, on fait un baba au rhum très classique, hein, qu'on présente du moins avec une chantilly. Une chantilly maison et aussi un petit verre de rhum à côté pour booster un petit peu pour ceux qui aiment un petit peu plus corsé. Voilà, après ces babas on les met au sirop bien sûr, donc le sirop pareil, un petit peu d'orange et un petit peu de rhum dans le sirop et de la vanille aussi, la vanille. Donc là on va commencer les babas puisqu'il faut le temps que la pâte elle lève. On a des levées un peu successives sur le baba, donc là pour 250 g de farine, hein, nous on part là-dessus, ça nous fait 8 babas. On va mettre 25 g de sucre, 5 g de sel. On va mettre 3 œufs. On va mettre 3 œufs, voilà. Là, à côté, on a préparé la levure boulangère, hein, qui se dissout dans l'eau, tranquillement. On va rajouter, donc là j'avais déjà mis le sucre, le sel, je rajoute les œufs, on va rajouter la levure, on va faire un premier passage dans le mixeur pour homogénéiser la pâte. Donc voilà, on va se mettre par là, si on trouve un peu de place, la cuisine est petite, donc petite organisation dans la cuisine. Voilà, là, comme ça. Donc, on va commencer ça. Pendant ce temps, on va préparer 125 g de beurre qu'on va faire fondre, qu'on va ramollir, qu'on va rajouter ensuite à la pâte. Voilà, 125 g. Il nous en faut un petit peu après pour les moules. On va beurrer aussi les moules après. Voilà. Hop. On va tranquillement. Juste on va ramener le beurre. Là on va accélérer un petit peu. Faut vraiment pour le baba, il faut vraiment qu'on ait une pâte qui soit un petit peu élastique. On met un petit peu d'élasticité sur la pâte. Donc on n'hésite pas à la battre assez violemment.
Ah oui, effectivement, elle est vraiment élastique.
Hein. Ouais, ça fait une pâte qui est quand même assez élastique. Ouais.
Donc là, sur la table, on a autant des préparations pour aujourd'hui que pour les jours à venir,
ouais,
c'est ça ?
C'est ça, ouais. C'est ça, il y a des choses qu'on prépare un petit peu. Les joues de porc confites, elles vont faire pour aujourd'hui, pour demain, voilà, selon les commandes qu'on a. Hein. Au niveau du confit, c'est des choses qui se gardent facilement. Une fois qu'ils sont figés dans la graisse, ça se garde facilement. Voilà, effectivement, sur les babas, c'est pareil, on peut les garder pour le lendemain aussi, ça, les pâtes, elles tiennent comme ça. Voilà, il y a des choses, on va faire une polinte aussi pour accompagner nos viandes. Donc là, Clément est en train de couper des olives, on fait une polinte à tomates confites et aux olives. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on garde la veille pour le lendemain aussi. On va remplir les babas et puis après on va les laisser monter tranquillement
Combien de temps ça monte?
Alors, ça dépend de la température, en fait. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du temps, de la température dans la cuisine, des courants d'air ou pas. En gros, ça monte une grosse demi-heure.
Et sur la cuisson, ça va vite, les babas?
La cuisson, oui, on les cuit 13-14 minutes à 160 degrés. Voilà, qu'ils soient bien dorés. Il ne faut pas trop qu'ils sèchent non plus. Et là, on va les laisser monter tranquillement. Là, on a les fondants au chocolat qui sont prêts, qui ne demandent plus qu'à cuire. Dès qu'on va libérer le four du foie gras, on ne va pas tout faire cuire en même temps parce qu'il va quand même y avoir des mélanges de goûts qui vont être un petit peu originales si on fait du fondant au foie gras. Ça risque d'être un peu bizarre.
Le foie gras, c'est cuit combien de temps?
Alors le foie gras, moi je le fais avec une sonde, hein. Je fais une température à cœur, donc en fait je le fais avec une sonde. Et en gros il cuit presque 2 heures à 70 degrés, c'est vraiment une cuisson lente, voilà, pour pas le brusquer, pour pas qu'il dégraisse trop non plus, parce que si on fait une cuisson trop rapide, on a tendance à jeter toute la graisse, avoir beaucoup de graisse qui remonte et c'est dommage. C'est dommage. Après, ça dépend aussi de la graisse que jettent les foies, ça dépend aussi de la matière première, les foies qui sont plus ou moins gras et qui se tiennent plus ou moins en cuisson. Voilà. Là, on est sur des foie gras français du sud-ouest, sur des canards nés, élevés et abattus en France. Voilà. Donc, c'est du foie gras qui se tient bien en cuisson. Ouais.
Et que tu prévois de servir à midi?
Non, il faut les laisser poser. Les foie gras, il faut les laisser poser 24 heures. C'est comme les terrines de viande aussi, on ne peut pas servir ça tout de suite, il faut vraiment que ça mature et que ça se repose un petit peu. Voilà. Là on va les sortir du four et on va les mettre un petit peu sous presse, gentiment, pour que le foie gras soit bien compact, faire remonter un petit peu la graisse qu'il peut y avoir au milieu, et puis surtout qu'il soit bien compact et facile à couper et joli à présenter.
Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est de revenir demain midi pour goûter ton foie gras,
on fait ça ? Avec plaisir.
Bon, et ben on fait ça. Didier, Clément, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Donc si on essaye de résumer, si vous souhaitez manger de l'omble chevalier au beurre d'enfance, suivi d'un baba au rhum nuageux dans une salle avec des peintures du début du XXe siècle, et tout en admirant du coup les tableaux de Frédéric Leclerc et les sculptures de Jérôme Ossibal,
ouais.
Venez au Café Brochier.
Voilà, c'est un peu ça.
C'est ça.